Hello tout le monde, bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de Rien à voir. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du travail et de comment, entre gros guillemets, trouver le job de ses rêves. Parce que, en fait, c'est quelque chose avec lequel j'ai énormément galéré. Je pense que ça va un peu de pair avec tout ce qui va être le sens de la vie. Même si, pour beaucoup, évidemment, le sens de la vie, ce n'est pas le travail. Mais moi, je suis un peu partisane du fait que, étant donné qu'on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup dans sa vie, je me voyais mal faire un boulot qui me plaît bof et vivre ma vie à côté en mode, j'ai un boulot qui me plaît moyennement, mais c'est pas grave parce qu'à côté, je sais pas, j'ai une super vie sociale, j'ai des amis, je fais des activités, etc. Moi, clairement, depuis toujours, je pense que mon travail, c'est beaucoup plus que mon travail. C'est en mode, je passe le plus clair de mon temps à faire ça, donc autant faire en sorte que ça ait du sens. Voilà. Et si jamais, vous qui m'écoutez, vous avez peut-être l'impression de pas forcément réellement surkiffer votre travail, ou peut-être que vous êtes en train d'encore faire vos études et que vous savez pas ce que vous voulez faire plus tard, ou je ne sais quoi, ou qu'est-ce, si vous vous sentez un peu perdu dans votre vie, j'espère que cet épisode pourra vous aider un minimum. Voilà, je raconte toujours la même histoire au début de mes épisodes, mais c'est parce que c'est toujours la même histoire. Voilà. Alors, par quoi est-ce qu'on va commencer ? Déjà, par le début, c'est-à-dire Olga enfant. Parce que cette question de qu'est-ce que tu veux faire plus tard, le métier, le travail, etc., c'est quelque chose avec lequel on nous bassine depuis vraiment très longtemps. Et quand j'étais enfant, moi j'avais comme projet professionnel de sauver le monde. Donc clairement quelque chose d'assez compliqué et j'ai pas trop envie de revenir sur cette période de mes 5 à mes 25 ans parce que j'en ai vraiment vraiment beaucoup parlé dans le premier épisode. Mais grosso modo, j'avais envie de sauver le monde, j'ai fait beaucoup d'études toujours dans cette optique de trouver, enfin de m'orienter vers un métier qui me permettrait peu ou prou, je ne sais pas si ça se dit cette expression, mais qui me permettrait de sauver le monde. Et puis, je suis arrivée en 2020, il y a eu le Covid, j'ai compris que je ne sauverais pas le monde. Et là, j'ai dû faire le deuil de ce petit projet professionnel qui était bien plus que ça, puisque du coup, c'était littéralement le sens de ma vie. Et finalement, ça fait que depuis mars 2020, que je me pose réellement la question de « Ok, mais Olga, concrètement, genre là, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire de ta vie ?» Et qu'est-ce que tu vas pouvoir faire de ta vie qui te ramène de l'argent ? Donc, je décide de reprendre un master. Et en fait, j'essaye. Je regarde un peu tous les masters de France. Et je me dis, OK, qu'est-ce qui me correspond le plus ? Genre, quand je lis des mots, ressources humaines, développement durable, etc., etc. Et donc, je fais un peu comme ça. Donc, je fais un benchmark de tous les masters de France. Et je trouve un master en langue étrangère appliquée. Management de projet, communication dans le développement durable. Et là, je me dis, vraiment, si je prends tous les mots un par un, ça me parle. Genre, j'aime les langues, j'aime le management de projet, j'en ai déjà fait. Et puis, le développement durable, je me dis, ouais, ça me parle. Je vais travailler là-dedans. Je peux pas sauver le monde, ça, je l'ai accepté. Mais puisque j'ai décidé de quand même vivre, autant faire un truc qui soit un peu relié à ça et autant manager des petits projets à droite à gauche, mais qui sont en tout cas liés au développement durable. Donc sur le papier, tout allait bien. Tout allait bien, tout me correspondait. Il y avait de la logique dans l'air, on va dire. Donc j'y suis allée. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était intéressant, vraiment. Mais que c'était pas quelque chose qui me faisait vibrer. C'est-à-dire que manager un projet, super intéressant. Mais en fait, c'est beaucoup de, entre guillemets, de logistique, beaucoup de... Je sais même pas. En fait, je vais pas commencer à dire ce que c'est que manager un projet. Mais ce qui est sûr, c'est que je savais que j'en étais capable, mais j'ai commencé à me poser la question, est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai envie ? Le truc qui était trop cool avec ma première année de master, c'est qu'en fait, j'ai fait un mois de cours et ensuite, tout le reste, il y a eu le Covid et je suis partie en Erasmus en Italie, et je suis partie en stage en Italie, donc j'ai passé plus de 9 mois à ne pas du tout me poser la question « qu'est-ce que je vais faire plus tard ? Quel est mon métier ?» à avoir quasiment rien à faire, parce que j'avais quasiment pas de cours, et ensuite, donc quand j'étais en stage, j'avais quasiment pas d'heures de stage, parce que c'était les vacances, et que voilà, eux, ils étaient en vacances, donc c'était très tranquille, on va dire. Et pendant tout ce temps que j'ai passé avec moi-même ou avec d'autres gens, à être dans un pays, j'allais dire inconnu, non, mais à être dans un pays étranger en tout cas, et bah, ça m'a juste permis de, je crois, d'apprendre à encore plus me connaître, sachant que je me connaissais déjà pas mal. Et comme, d'une certaine manière, j'avais énormément de temps libre et je m'ennuyais, il a bien fallu que je trouve des choses à faire pour me stimuler d'une manière ou d'une autre. Surtout d'ailleurs, je parle plutôt quand j'étais en Sicile, que c'était l'été, qu'il faisait 50 degrés, que j'habitais dans un patelin et qu'il n'y avait vraiment rien à faire. Donc, je suis en Sicile et d'un coup, je ne sais pas d'où ça me vient, mais j'ai une révélation et je me dis « mais Olga, il faut que tu écrives un livre ». Et pas n'importe quel livre. En gros, je sais que je vous en ai déjà un peu parlé dans les épisodes précédents, mais pendant le confinement, je me suis passionnée par tout ce qui est physique, astrophysique, métaphysique, etc. Et c'est pas seulement que ça m'a passionnée, c'est juste que ça m'a littéralement sauvé la vie. Ça a changé ma manière entière de voir le monde, et du coup, ça m'a vraiment sauvé la vie. Et je me suis dit... Ben, Olga, en fait, là, t'es là, tu fais rien. Et en fait, je crois même pas que je me suis dit ça en mode je vais remplir mon temps. Mais ce qui est sûr, c'est que le vide chez moi apporte un besoin de créer, de faire. Du coup, ce besoin s'est traduit par ok, bah, en fait, je vais écrire un livre. Et j'ai commencé à passer toutes mes journées. Je me levais hyper tôt parce que j'adore me lever tôt. Et en fait, je faisais la physique. Et je faisais aussi beaucoup de philo, et j'écrivais des tas de trucs, et j'avais un carnet, et je faisais que ça, et ça bouillonnait devant ma tête, ça ne s'arrêtait jamais, j'étais à 100% là-dedans. Et en fait, je me sentais tellement vivante, et je crois que c'était la première fois de toute ma vie que je me disais « ça, ça a du sens ». Genre, à 100%, ça a du sens. Pas en mode « ouais... je fais du management de projet, c'est sympa. » Non, genre, en fait, quand je faisais ça, je me suis sentie mais tellement vivante, je me suis sentie tellement à ma place. C'était quelque chose d'inexplicable, mais ouais. En fait, je crois que j'étais en mode, bah ouais, en fait, c'est ça le... Pas forcément le sens de ma vie, mais en tout cas, c'est ça, ouais, c'est ça qui a du sens. Et là, vous allez me dire, ok, Olga, mais c'est quoi le rapport entre toi, paumé, qui écrit, enfin, plutôt qui écoute, des vidéos sur la physique et le travail, parce qu'on est bien d'accord que ça ne paye pas de faire ça. Et vous avez totalement raison, vraiment. Donc on continue. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte, toujours à ce moment-là, que j'avais pas du tout envie de manager des projets. Qu'en fait, il n'y avait aucun projet sur cette planète Terre qui m'importait plus que celui que les gens aillent bien. Et du coup, je me suis dit, là, Olga, je crois que tu as en fait compris ce que c'était le sens de ta vie et surtout ce que tu voulais faire dans ton travail. Toi, tu t'en fiches de savoir si tel projet va être mené à bien, de savoir si, je sais pas, on va pouvoir signer tel contrat, etc. Au fond du fond, toi, ce qui t'importe, c'est que les gens ils soient heureux et qu'ils soient bien et qu'eux, ils puissent ensuite faire tous les projets qu'ils veulent. Mais toi, le seul projet qui t'intéresse, c'est les gens et c'est qu'ils aillent bien. Et c'est là où j'aimerais faire un petit aparté pour critiquer notre éducation. Enfin, notre éducation. Pour critiquer un peu la manière dont on nous demande depuis qu'on est tout petit de trouver le métier de nos rêves. Parce que je pense... qu'une des raisons pour lesquelles autant de personnes galèrent avec le fait d'avoir un travail qui ait du sens pour eux et dans lequel ils s'épanouissent, etc., etc., ça se joue là. En même temps, qu'est-ce qui ne se joue pas pendant l'enfance et pendant l'éducation ? Vous allez me dire. Bref, je m'explique. Pour moi, le fait de demander aux enfants et ensuite aux adolescents, etc., quand ils grandissent, H24, H24, mais vous m'avez compris quand même assez régulièrement, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, quelles sont les études que tu veux faire, quel est le métier que tu veux faire. Honnêtement, je pense que ça peut créer une espèce de, déjà d'angoisse. Franchement, parlons clairement. C'est assez angoissant quand t'es là, que tu connais rien à la vie, ou que t'en connais assez peu, et que tu te connais pas forcément des masses non plus, et que tu dois choisir le truc qui va pouvoir te permettre de gagner de l'argent. Quand on y repense deux secondes, quand t'as un enfant, on lui demande « qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier ?» On est déjà en train de lui dire « mec, va falloir que tu gagnes de l'argent ». Mais c'est horrible. Enfin, c'est pas que c'est horrible, mais moi, si, je trouve que ça met une espèce de pression à un enfant. On devrait pas lui dire ça. On devrait juste lui dire « hé, c'est quoi que tu kiffes dans la vie ? Vas-y, kiffe, vis. » Genre juste vis, pas en mode « oui, mais attention, réfléchis, travaille bien à l'école, parce qu'ensuite, il va falloir bien avoir un bon métier. Et si tu travailles bien à l'école, tu auras un bon métier. Et si tu as un bon métier, tu vas bien gagner ta vie. » Mais non. Moi, je me dis « mais... » Je pense que déjà là, on touche un truc qui fait que... Angoisse. Genre vraiment angoisse. Bref, j'ai du mal à l'exprimer, mais c'est pas grave. Et je pense que le deuxième truc assez problématique avec cette question, c'est que en nous demandant comme ça de nous projeter et de trouver le métier de nos rêves et de réfléchir en fait à ça, c'est comme si on nous forçait d'une certaine manière, ou en tout cas on nous habituait à toujours avoir un regard vers l'extérieur. Et à avoir ce truc de « ok, en fait, moi, là, il faut que je trouve ma place dans le monde extérieur. Il faut que je comprenne quelle est la place qui m'attend et ensuite comment je vais faire pour y arriver. » Tout ça sans à aucun moment nous inviter à réellement comprendre qui on est. Et je pense que c'est la base du problème. C'est que finalement, j'ai l'impression qu'en règle générale, en tout cas les gens qui m'entourent, se connaissent extrêmement peu. Quand tu vas demander à certaines personnes qui tu es, qu'est-ce que tu kiffes, c'est quoi qui a du sens dans ta vie, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on leur a tellement peu posé comme question que limite les gens, ils vont directement s'introduire à toi en mode voilà, ça c'est mon travail, ça c'est mes études. Donc en fait, il y a une espèce de redéfinition de notre propre personne par notre travail, par notre métier, par nos études. Et derrière, si on enlève tout ça, qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on aime vraiment. Il y a trop peu de personnes qui le savent et moi, c'est ce que je vous invite à faire. Je vous invite à oublier ces histoires d'études et de métiers et de comment je vais pouvoir m'insérer dans la société, comment je vais pouvoir gagner de l'argent. Genre, avant même de penser à ça, avant même de réfléchir à ça, mais qui vous êtes en fait? Genre, qui vous êtes quand... J'allais dire la phrase très bateau, qui vous êtes quand il n'y a personne autour. Non, mais qui vous êtes? Imaginez que vous soyez dans un monde où l'argent n'existe pas et où on n'a pas besoin de travailler. Ma question, c'est qu'est-ce que vous feriez? Et je suis sûre qu'il y en a pas mal qui vont répondre en mode « moi, je dormirai toute la journée parce que c'est que ce que j'aime faire ». Je pense pas. Genre, honnêtement, bon après, c'est peut-être ça ne tient peut-être qu'à moi, mais je pense que là, cette réponse, elle est faite en contradiction avec le fait qu'on soit une société qui demande d'être toujours à balle et que vous êtes un peu déjà épuisé. Vous vous dites « bah ouais, moi, c'est bon, je prends des vacances. Si j'ai rien à faire, je prends des vacances ». Mais au bout d'un moment, je pense que vous allez finir par vous faire chier. Bref, du coup, ça pour dire, posez-vous cette question de « ok, si je n'avais pas besoin de travailler, qu'est-ce que je ferais ?» Et là, vous allez peut-être me dire, bah moi, franchement, ce que j'adore faire dans la vie, c'est voyager. Ou alors, bah moi, j'aime bien peindre comme ça dans mes heures perdues. Ou alors, moi, j'aime bien... Il peut y avoir des choses qui sont beaucoup plus abstraites. Parce que si on revient à moi, à mon cas, aider les gens, faire en sorte qu'ils soient bien dans leur tête, c'est assez abstrait. Et puis, ça ne veut pas dire que toute ma journée, je veux faire ça. Mais ça veut dire que si demain... j'étais pas payée, ça resterait la chose que je veux faire, en fait. Ça reste ce que je veux faire. C'est pas pour rien que je fais ce podcast pour lequel je suis pas du tout payée, que je vais écrire un livre pour lequel je suis pas du tout payée. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est qu'est-ce que vous feriez comme métier, ou en tout cas, qu'est-ce que vous feriez tout court si vous étiez pas payée pour. Et une fois que vous aurez trouvé la réponse, je vous en supplie, ne balayez pas cette réponse en mode « ouais, mais ce serait impossible. Ce serait impossible de faire ça comme métier. » Parce que c'est ça le problème, c'est que je pense que les gens sont trop réalistes. Je pense que on est trop formaté et que nos rêves, entre gros guillemets, on les balaye beaucoup trop rapidement en mode « oui, mais c'est pas possible ». On s'en fiche, on s'en contrefiche de savoir si c'est possible, si ça existe comme métier, si... On s'en fiche. Imaginons, là, vous venez de vous poser la question et la réponse, c'est « bah moi, en fait, genre, le moment où je me sens trop, trop bien et genre, si j'avais pas besoin d'être payée, franchement, je pense que je passerais ma vie à planter des... Je sais pas, j'aime trop être dans la terre, donc je pense que je passerais ma vie, voilà, à planter des trucs. Ok, bah maintenant, on va trouver un métier, peu importe le nom, qui concrètement te permettra, toi, au quotidien, d'être au contact de la terre. Ça ne veut pas dire que tu dois être forcément jardinière ou je ne sais quoi aux caisses, mais il y a des métiers où tu peux juste être au contact de la terre, en fait. Et si ce métier n'existe pas, eh ben on s'en fiche. La chose qui est incroyable avec la vie, c'est que ça évolue. Le travail, ça évolue. Les métiers évoluent. Il y a des nouveaux métiers tous les jours. Et s'ils existent, ces nouveaux métiers, c'est parce qu'il y a des gens un jour qui se sont dit « bah ouais, en fait, moi, je vais trouver une manière d'être rémunéré pour faire cette chose-là. » Et c'est tout. Enfin, c'est tout. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui m'écoutent et qui sont en mode c'est du n'importe quoi ce qu'elle raconte, c'est pas possible, etc. Du coup, je vais revenir à ma vie. Peut-être que du coup, ce sera un peu plus concret et que ça vous montrera, entre gros guillemets, que c'est possible. Et je suis absolument pas différente ou j'ai pas une confiance de fou furieux. Enfin, si, j'ai confiance, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a 2 ans, 3 ans, même en arrière, j'étais au plus bas que terre. Et c'est même pas une question de croyance, c'est juste, je crois, en tout cas de mon côté, que c'est une question de j'ai pas eu le choix, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on a été en dépression pendant les 3/4 de sa vie et qu'on trouve enfin quelque chose qui a du sens, j'avais pas d'autre choix que de me dire bah là, Olga, en fait, tu vas le faire. Je veux dire, tu vas trouver un moyen d'être rémunéré pour faire quelque chose qui a du sens pour toi. Il n'y a aucun autre moyen, en fait, d'avancer. Du coup, petit retour en arrière, je suis donc en Sicile et je viens de comprendre que ce qui avait du sens pour moi, c'était d'aider les gens. Et là, vous allez me dire, c'est facile. Il y a plein de métiers qui te permettent d'aider les gens. Tu peux être psychologue, tu peux être assistant social, tu peux être... Bref, je ne vais pas les énumérer, mais vous m'avez compris. Sauf que aucun de ces métiers me parlait. Moi, en fait, ce que j'avais envie de faire, et c'est ça aussi, c'est que je me suis vraiment visualisée en train de faire mon travail. Et ça, je pense que c'est hyper important. Essayer de visualiser concrètement, non pas le nom du poste ou les missions, mais vraiment de vous visualiser, vous, au travail. Et je me suis imaginée dans une entreprise, au milieu de bureaux, à me promener un peu. Je me voyais, voilà, me promener entre les différents bureaux, aller voir un tel, aller voir un autre tel. Je me voyais genre parler avec machin qui me dit « ok, bah ça va pas, aller voir une autre personne pour essayer de régler le problème ». Je me voyais aussi parler en one-to-one avec les gens, que les gens ils se confient à moi. J'avais aussi ce truc de « j'avais envie d'être là pour aiguiller la journée des gens, donc pourquoi pas organiser des petits événements, des petits trucs ». Et une fois que vous avez visualisé la chose, et vraiment, je pense que c'est pas pour rien que les vision boards, etc., ça marche, c'est parce que c'est hyper important de se poser la question de l'environnement aussi de travail, de concrètement en fait ce que tu veux faire. Et une fois que tu as ça, bah, tu n'as plus qu'à essayer de voir s'il n'y a pas un métier qui correspond à cette visualisation. Et donc moi, j'ai commencé à rechercher sur Internet tout ce qui était lié au rapport du bien-être au travail. Et quand je lisais les fiches de poste, je m'attardais vraiment à comprendre concrètement qu'est-ce que la personne faisait. Pas juste l'intitulé du poste et genre le domaine. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fini mon master et j'ai trouvé un nouveau master qui était beaucoup plus dans tout ce qui allait être bien-être au travail et communication interne. Et il a fallu que je trouve mon entreprise dans laquelle j'allais réaliser mon alternance. Donc, j'entame une petite campagne de candidature, ça ne se dit pas, mais c'est pas grave. Et je me dis, je vais pas du tout essayer de correspondre à des fiches de poste parce qu'il y a aucune fiche de poste qui m'intéresse. Genre, il y a des gens, ça va être des fiches de poste pour, je sais pas, de la RH. Non, je veux pas faire ça. Moi, je vois tout ce qu'il y a écrit, je me dis, je veux pas faire ça. Donc, je me suis dit, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un CV et une lettre de motivation qui explique vraiment ce que je veux faire. Donc, j'envoie ça à peu près toutes les entreprises de la ville dans laquelle je suis actuellement, qui n'est pas une ville immense non plus. Et toutes les entreprises me disent, c'est intéressant et tout ce que vous me racontez, sauf que nous, on n'a pas de poste dans la communication interne ou on n'a pas de poste genre RH, etc. On n'a pas ça. Et je me dis, bah tant pis. En fait, je préfère être refusée par tout le monde plutôt que d'accepter un poste qui ne me convienne pas, en fait. Vraiment, sinon, j'aurais trouvé un autre moyen d'y arriver. Mais ça aussi, c'est hyper important, les gars. Quand vous voulez quelque chose, n'acceptez pas autre chose. C'est aussi simple que ça. Et ça, ça va vous paraître débile, mais typiquement, moi, j'ai fait énormément de recherches d'appartements dans ma vie. J'avais des critères et je n'acceptais pas, en fait, le premier appartement qui venait sous prétexte que bah, j'avais pas le temps, que j'avais besoin de le trouver tout de suite maintenant et que j'avais pas beaucoup d'argent et que je ne sais quoi aux caisses. Non. Et j'ai toujours eu ce truc de je refusais. Et je finissais. Alors oui, je galérais de ouf. Oui, je pouvais des fois être SDF pendant des mois et des mois. Mais je finissais toujours par trouver des bêtes d'appartements. Mais parce que j'osais prendre le risque de ne rien avoir du tout. Et ça, prenez des risques plutôt que de valoriser la sécurité à tout prix. Si vous savez exactement ce que vous voulez, ça ne va pas arriver genre comme ça du jour au lendemain. Bon, donc du coup, moi, qu'est-ce qui se passe? Bah, concrètement, tout le monde me dit non. Et moi, je me dis, OK, bah, on continue. Et un jour, sur LinkedIn, j'ai quelqu'un qui me contacte et qui me dit, voilà, Olga, ton profil est intéressant. Est-ce que tu serais intéressée par le poste de Customer Happiness Manager? Non. La réponse est non, pas du tout. Et moi, je lui dis non. Je lui dis merci beaucoup, c'est gentil, mais ce sera sans moi. Et cette personne me dit, bah écoute, ça m'intéresserait quand même de faire un entretien avec toi, donc est-ce que tu acceptes? Donc je dis oui, bien sûr, pas de problème. Je me retrouve du coup à faire un premier entretien avec lui, à la fin duquel il m'explique qu'on n'a pas de poste pour moi, mais que quand même, ce serait pas mal si je venais faire un deuxième entretien. Je fais donc un deuxième entretien et... Il faut savoir que pendant ces deux entretiens, j'étais 100% moi-même, non seulement dans ma personnalité, mais surtout dans ce que je racontais. J'étais vraiment en mode, bah voilà, moi en fait, c'est ça que je veux faire, c'est ça qui m'intéresse, et c'est pas autre chose. Et ça aussi, c'est un petit tips ou quelque chose que je vous invite à faire. N'ayez pas peur du refus. N'ayez pas peur du refus et n'agissez pas en fonction de ça. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens, ils ont tellement peur de se faire recaler à un entretien, qui vont du coup essayer de correspondre au max à la fiche de poste et au max à l'entreprise. Et en fait, du coup, bah ok, vous allez peut-être l'avoir, le poste, mais ce ne sera pas pour vous, tout simplement. Si vous êtes recal, c'était juste que le poste n'était pas pour vous, et c'est tout. Si vous êtes vous-même à 100%, après, ce sera à l'entreprise de choisir si vous, ils vous veulent ou ils ne veulent pas. Bref, je finis donc ces deux entretiens, et au final, ce qui s'est passé, c'est que eux... c'était pas du tout dans leur plan d'avoir quelqu'un qui était en mode chargé de la qualité du travail et la communication interne. Mais ils m'ont embauché et ils m'ont dit bah, en fait, on va créer le poste pour toi. Et c'est comme ça que 2 ans et demi après être sortie de ma dépression, je décrochais un poste qui correspond à 100% à mon poste de rêve, puisque je l'ai moi-même créé. Enfin, en tout cas, on l'a créé pour moi. Et mon Dieu, quoi, on en est là. Et ça, c'est juste parce que j'ai jamais rien lâché, pas en mode « ouais, je lâche rien », mais juste en mode « bah moi, je sais ce que je veux et je ferai rien d'autre, en fait. Je ne ferai rien d'autre que ce que je veux. » Du coup, on en est qu'aujourd'hui, j'ai le poste de mes rêves, que je suis dans une entreprise absolument incroyable et qu'au final, sur les 300 entreprises auxquelles j'avais postulé, personne ne m'a répondu. Mais on s'en fiche. On s'en fiche parce que j'ai eu ce que je voulais. Et c'est tout. Et c'est incroyable, mais c'est possible. Bref, je pense que je vais m'arrêter là, que j'ai fait à peu près le tour de la question, même si évidemment j'ai jamais fait le tour de la question, mais c'est pas grave. J'espère que ça vous a parlé cet épisode. Tenez aussi à préciser que j'ai vraiment pas envie de donner l'impression de vous prendre un peu de haut en mode « ouais, la vie c'est trop facile, il suffit juste d'y croire ». Non, c'est pas vraiment ça, enfin... C'est pas ce que j'essaie de dire à travers tous ces épisodes. La vie, c'est pas facile du tout. Mais ce qui est... j'ai juste envie de vous montrer que c'est quand même possible. C'est quand même possible de s'en tirer. Et non seulement de s'en tirer, mais de bien s'en tirer, quoi. De bien s'en tirer, de bien kiffer. Donc, voilà. J'espère que vous allez tous pouvoir, ou que vous l'êtes déjà d'ailleurs, être épanouis dans le travail que vous ferez ou que vous faites. Et voilà! Qui fait bien. On se retrouve dans 2 semaines, le dimanche 16 avril. Entre-temps, si jamais vous avez des choses à me dire, vous pouvez toujours m'envoyer un message sur l'Instagram du podcast @rienavoirpodcast.fr, j'allais dire, pas du tout, juste @rienavoirpodcast. N'hésitez pas à me faire toutes les critiques que vous voulez, que ce soit négatif, positif, vraiment, c'est toujours un régal pour moi. Si vous avez des idées de thèmes aussi, allez-y. Et c'est à peu près tout. Voilà, je vous fais des bisous. Ciao, à la prochaine.